Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en novembre 2020 et c'est l'épisode numéro 377. J'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Jeff Clavier. Comment ça va, Jeff ?
Bah écoute, ça va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis la Californie, où on a plein de cas de Covid, même si il y a 15 jours on allait très bien, mais les gens ont décidé de sortir pour Halloween. Et on est en train d'avoir un outbreak, comme on dit ici. Restez chez vous, portez des masques. De toute façon, en France, vous n'avez pas le choix. Donc, je peux vous dire, ça vous pompe sûrement. Mais si on avait ça, on serait moins dans la merde. Donc,
ouais. Bon courage. J'espère que ça va aller un petit peu mieux. Marion, est-ce que tu portes un masque ?
Non, parce qu'en fait, je travaille de chez moi, donc je sors très, très peu. Mais oui, quand je sors de chez moi, je porte un masque. Je suis confinée chez moi, je travaille depuis chez moi. J'essaie de garder le contact avec mes collègues. On est tous à distance, mais on fait comme on peut.
J'ai une blague que je viens de relire, que je connaissais déjà, sur la Finlande. C'est assez marrant, c'est le ministère de la santé finlandais a aboli la distanciation sociale de 2 mètres, donc les Finlandais vont pouvoir recommencer à se tenir à 5 mètres comme ils le faisaient avant. Les Finlandais sont pas très, très sociaux, on va dire. On va vous parler de processeurs M1 et de nouvelles générations d'appareils Apple, d'ordinateurs Apple. Assez étonnant, ces annonces et ces premiers chiffres qu'on a des ordinateurs Apple. On a aussi des infos sur TikTok, bien sûr, sur Uber et la conduite autonome, sur une décision de la Cour suprême autrichienne qui va avoir des conséquences intéressantes, possiblement, et plein d'autres choses assez excitante. Mais avant de se lancer là-dedans, je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Spécifiquement aujourd'hui, je voudrais remercier Rohot, Franck Soff, Dany Petit, Arnaud Talamon, Akari, Romain Lemel, Sébastien Voilard, Robin Dubois, Inakar, Romain Siakavafa. Non, je me suis trompé, je me disais, il ne faut pas que je me trompe sur celui-là. Romain Siakafava, et évidemment les producteurs qu'on remercie chaque mois, Chulrak, Lancelot Davizar et Marie El-Ederi. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Alors, le premier gros sujet, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est les ordinateurs Apple équipés de puces Apple, ce qui est évidemment un gros changement pour Apple et ses ordinateurs, mais également pour possiblement l'industrie des ordinateurs de bureau, des ordinateurs personnels aussi. Ils avaient annoncé qu'ils allaient commencer à opérer cette transition dans les jours qui viennent. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne connaissent pas l'importance de ce changement, tous les ordinateurs, jusqu'à maintenant les ordinateurs de bureau, on va dire l'immense majorité, utilisaient des puces Intel. Des puces Intel qui étaient basées sur une architecture spécifique qui était toujours compatible avec les puces Intel. C'était que ça soit généralement, on va dire, Intel ou AMD. Mais c'était un certain type de puce qui fonctionnait d'une certaine manière. Apple, qui développe des puces pour ses téléphones et ses iPads depuis des années maintenant, ils les conçoivent et elles sont ensuite fabriquées par... Et voilà, ça commence. Je suis désolé,
c'est l'heure des épisodes. T'as pas attendu longtemps.
Non, mais c'est l'un des épisodes qu'on enregistre tard. Il est 11h pour moi ici en Finlande. Et vous savez que mon fils se lève très très tôt, donc je suis déjà fatigué, je suis désolé. C'est comme ça à chaque fois. C'est pas que Marion ou Jeff...
On n'a rien dit encore. Le fait qu'on t'embête et qu'on te mette à bailler alors qu'on raconte nos histoires, etc. Je comprends. Mais là, c'est, tu te fais bailler tout seul. J'ai jamais vu ça.
Écoute, bravo, quand on parle d'Apple, parfois ça arrive. Mais donc, il y a des processeurs basés sur l'architecture ARM, qu'ils customisent pour leurs besoins et qu'ils font fabriquer évidemment par d'autres fabricants. Ils les utilisent pour leurs appareils mobiles depuis longtemps et ils ont annoncé et décidé il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, qu'ils allaient transitionner toute leur gamme d'ordinateurs de bureau, les Mac et les iMac et les Mac Pro, sur ces processeurs qui sont à la base prévus pour des mobiles. Et je vais vous passer tous les détails techniques de ces processeurs. Je vais simplement dire qu'ils sont gravés en 5 nanomètres. 5 nanomètres, ça veut dire une finesse de gravure beaucoup plus importante que les processeurs Intel, qui sont à la ramasse à ce niveau-là depuis plusieurs années déjà. Intel n'arrive pas à suivre au niveau recherche et développement. Donc, ils sont en 5 nanomètres. Et ils ont 16 milliards de transistors. Pour vous faire une petite comparaison marrante, les premiers processeurs ARM avaient 25 000 transistors en 1985. On est passé de 25 000 à 16 milliards. Donc voilà, ils ont 4 cœurs haute performance, 4 cœurs haute, on va dire faible consommation, 8 cœurs de processeurs graphiques et tout plein d'éléments sur la puce, même la mémoire, la RAM, est dans le package de la puce. Donc, on ne peut même plus changer la RAM. On a vraiment quelque chose de complètement contenu dans le même package électronique, ce qui veut dire que ça tourne de manière beaucoup plus rapide et que ça communique à l'intérieur de manière beaucoup plus rapide que si ça doit sortir de la puce pour aller communiquer à des cartes filles, à ce genre de choses. Mais le truc vraiment important à retenir, je ne vais pas vous saouler pendant 2 heures avec cette histoire de processeur, le truc vraiment important à retenir, c'est qu'on imaginait tous que ces puces seraient en faible consommation, c'est-à-dire qu'il y aurait sans doute des autonomies dans les appareils qui vont les utiliser, des autonomies plus importantes. Et ce qui se passe là, ce qu'on constate avec les annonces d'Apple qui choisissent leurs chiffres, hein, on ne peut pas forcément se fier exactement à ce qu'ils ont dit pendant leur conférence, mais on a également des leaks de benchmarks qui sembleraient indiquer qu'il y a vraiment de la réalité derrière ces annonces, eh bien c'est que non seulement ils ont une durée de vie, une consommation énergétique qui est faible, comme on s'y attendait, mais aussi une puissance de calcul qui est beaucoup plus importante que ce qu'on attendait et plus importante que les processeurs Intel qui étaient utilisés dans les ordinateurs équivalents il y a encore quelques semaines. Enfin, il y a encore 2 jours, quoi, avant que cette annonce ne se fasse, enfin, une semaine. Et pour être clair, ce qu'ils ont annoncé, c'est un MacBook Air, donc qui a a priori pas besoin d'énormément de puissance, un MacBook Pro 13 pouces, qui là encore n'est pas l'ordinateur le plus puissant qui soit, mais tout de même, et un Mac Mini. Encore une fois, on va dire que c'est un début de gamme pour ces appareils avec ces processeurs M1, qui est donc le nom du processeur spécialisé pour Macintosh qu'a créé Apple. Et ces 3 ordinateurs sont, en théorie, plus puissants. Ce n'est pas juste qu'ils ont plus d'autonomie dans le cas des ordinateurs portables, mais ils sont même plus puissants que les équivalents, les modèles précédents avec puce Intel. Alors, ensuite, Apple dit qu'ils sont plus puissants que 98% des ordinateurs PC équivalents. Ça, c'est les chiffres que Apple tourne à son avantage. C'est pas du tout la même chose. Pardon. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on va pouvoir avoir avec les specs qui vont arriver très bientôt. Mais les performances qu'on voit avec des outils comme Geekbench, par exemple. Il y a des gens qui utilisent ces ordinateurs en test. Et quand ils utilisent ces benchmarks, les benchmarks sont uploadés au serveur de Geekbench et on peut essayer de déduire quels sont ces ordinateurs. Eh bien, pour donner une seule comparaison, une seule mesure, en performance single core, donc les performances les plus importantes, on va dire généralement pour l'utilisation bureautique normale, eh bien, non seulement ces puces font mieux que les équivalents chez Intel qui étaient utilisés dans ces ordinateurs, mais ils font même mieux en émulation de processeurs Intel sur la machine. C'est-à-dire que la puce d'Apple, quand elle fait tourner un programme qui n'a pas été écrit spécifiquement pour la puce d'Apple, mais qui a été écrite pour la puce d'Intel et qui tourne donc en émulation sur l'ordinateur d'Apple qui utilise la puce Apple, eh ben cette puce fait mieux que l'équivalent de l'ordinateur équivalent qui a une puce Intel. Ce qui est quand même vraiment surprenant. Je dirais que la grosse surprise, c'est ça, c'est les performances de cette puce, en tout cas les performances théoriques qu'on a l'air de nous vendre. C'est quand même un moment important, c'est une transition importante. Marion, est-ce que tu achètes, j'allais dire, je fais un anglicisme, tu y crois à ces performances-là ou c'est trop beau pour être vrai ?
Moi, je suis très, très intriguée et très, très intéressée justement par comment Apple a pris le marché à revers. C'est-à-dire qu'on partait à l'origine d'ordinateurs qui étaient conçus basés sur les ordinateurs de bureau, donc optimisés pour la puissance. Et c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce qu'on miniaturise de plus en plus, sauf qu'à un moment donné, on a heurté un mur par rapport à ça. Et du coup, c'est l'autre secteur, c'est-à-dire les appareils mobiles qui devaient être optimisés pour la mobilité, la miniaturisation et de plus en plus de puissance puisque l'usage s'est développé, qui a permis justement de potentiellement révolutionner, j'utilise un terme Apple, révolutionner les MacBook Pro et MacBook Air d'Apple. Et je trouve ça hyper intéressant de voir justement, en fonction des contraintes d'une approche, eh ben essayer d'avoir une approche différente. Mmh. Et justement, je trouve ça super, super pertinent, puisque de toute façon, la gamme là qui est sortie, en tout cas MacBook Pro, MacBook Air, c'est quand même des devices qui doivent être optimisés pour la mobilité, la batterie et la performance pour le MacBook Pro. Donc, en tout cas, moi, je suis intéressée. Pas la première génération, parce que c'est toujours un petit peu risqué, mais je me laisserai tenter, oui.
Ouais. Jeff, est-ce que toi, tu... C'est une transition qu'on a connue à plusieurs reprises hein, dans le monde d'Apple. Ils sont passés de différents processeurs à différents processeurs à plusieurs reprises. Là, ça leur donne une maîtrise vraiment complète sur l'ensemble de la chaîne, matériel et logiciel. Ils ne dépendent, c'est pas qu'ils dépendent plus de personne, c'est qu'ils ont en interne la main sur la conception de tous les éléments de leur ordinateur. Ça leur donne, j'imagine, un avantage a priori, ou alors est-ce que ça fait trop sur leur assiette et ça devient plus compliqué à gérer ?
Non, je pense qu'ils ont, une bonne expérience avec leur téléphone, donc je ne vois pas pourquoi ils ne reviendraient pas à construire leur propre processeur, puisque c'est ce qui se faisait il y a très longtemps, du temps des premiers MacBook Pro 15 et 17 pouces. Je suis comme Marion, en fait. Je suis les annonces. Je me suis acheté un MacBook Pro 16 pouces il n'y a pas très longtemps, donc la machine est vraiment très très bien et j'adore le grand écran. Donc, je vais...
Tu vas pas changer tout de suite
cette machine, tu vois, avant un ou deux ans. Et en plus, ce qui me sur le 13 pouces, je crois qu'ils ont une mémoire maximum de 16 Go, et la mémoire en fait est utilisée aussi bien pour la ROM que la RAM. Et donc, je pense que ça risque d'être un peu juste, quoi. Donc, je vais regarder, et lors de ma prochaine upgrade, je passerai là-dessus, puisque effectivement, si on peut avoir...
Ah bah là, t'auras plus le choix, oui.
Batterie tendue, oui, il n'y aura pas le choix, mais c'est pas le genre de... Tu vois, ce que j'ai vu est intéressant, mais ça ne m'incite pas à me jeter... parce que, en fait, j'ai un 13 pouces et un 16 pouces. J'ai pas envie de remplacer mon 16 pouces tout de suite parce que la machine tourne très très bien et puis sa batterie est très satisfaisante.
Il y a effectivement les ordinateurs, les versions sous Intel qui sont encore en vente et a priori, ça veut pas dire qu'il faut immédiatement on va pas mettre de veto sur les achats de machines avec processeur Intel. C'est sûr qu'elles vont encore être utilisées pendant un petit moment. Mais cet aspect de Apple, disons que dans le monde des PC, dans le monde des ordinateurs de bureau, il y a vraiment une commoditisation des machines qui s'est lancée il y a quelque temps, qui a commencé il y a quelque temps, et c'est des marges très très basses, et c'est donc des machines qui sont conçues. C'est difficile de faire une machine vraiment spécifique qui se différencie des autres, parce que toutes les machines sont faites à partir des mêmes pièces et c'est compliqué de les synergiser de manière spécifique. Tout doit marcher ensemble, donc tout doit marcher avec tout. Donc quand on veut faire une machine qui est spécifiquement comme on la voudrait, je parle des constructeurs, hein, si un designer veut faire une machine spécifiquement comme il la voudrait, c'est compliqué parce qu'on a des standards qu'il faut respecter dans le monde du PC, et ça a évidemment ses avantages. Mais là, Apple se retrouve dans une position vraiment spécifique qui est qu'ils peuvent concevoir leur machine absolument comme ils le veulent. Ils ont, alors il y aura toujours des éléments qui font partie des standards, mais le fait d'avoir la puce, la RAM, même le SSD, tu le mentionnais, tu mentionnais quelque chose de comparable, tout est soudé. C'est même pas que c'est soudé, c'est que ça fait partie de la puce. Et je crois que le SSD est également, le stockage est également spécifiquement conçu avec la puce. Donc tout est complètement intégré, ça devient une appliance, on ne peut rien changer sur ces machines-là, et évidemment il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, mais ça permet à Apple de maîtriser absolument toute la chaîne. Et c'est vrai que quand on parle de 16 gigas de RAM, il y a des gens qui vont dire dans le monde du PC, mais 16 gigas c'est pas suffisant pour faire telle ou telle ou telle chose. Bon, d'une part évidemment ce sont des machines qui sont relativement légères, donc qui sont désormais disponibles, donc ça va être pour des utilisations qui ne sont pas si gourmandes que ça. Donc 16 gigas, ça suffira sans doute. Et puis en plus, 16 gigas sur Mac, ça ne veut plus dire la même chose que 16 gigas sur PC. De la même manière que quand on parle de RAM sur appareil Apple, ce n'est pas la même chose que sur appareil Android, parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne. Et donc, ils se retrouvent avec une force de proposition assez unique dans la conception de leur machine, avec laquelle, j'ai l'impression, aucun constructeur ne peut vraiment rivaliser. Je ne vois pas quel constructeur autre qu'Apple peut faire les choses de cette manière. Ils appliquent la recette du mobile, comme vous l'avez bien dit tous les deux, au PC. Et possible. Est-ce que ça va être gagnant ? J'en sais rien. Mais c'est en tout cas assez unique.
C'est la question, quoi. En fait, c'est est-ce que cette méthode qui... Tu ne vas pas penser à upgrader ton téléphone, tu l'achètes dans une certaine configuration, ça te les fournit, tu ne vas pas commencer à remplacer la mémoire, le machin, le truc, alors que c'est ce que tu as l'habitude de faire avec les ordinateurs. Et cette flexibilité, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Je veux dire, on a tous ouvert nos ordinateurs pour changer un disque, de la mémoire, etc. etc. Et je ne sais pas si le fait de faire du brut de fonderie où tu peux rien changer, c'est quelque chose qui aura le même attrait.
Bon, ceci dit, sur les ordinateurs Apple, ça fait un moment qu'on ne peut plus vraiment faire ça, en fait. Donc, ça ne va pas énormément changer, en tout cas pour les modèles dont on parle aujourd'hui. Ça ne va pas changer grand-chose dans la pratique. Mais oui, c'est quand même...
Exactement, oui. Et moi, personnellement, je n'ai jamais démonté un ordinateur. que ce soit PC ou Mac, hein. Et la fois où mon Mac on a ouvert le capot, c'est pas moi qui ai touché, hein.
Ouais, je crois que c'est ça. On dit souvent que Apple essaye de faire des ordinateurs qui vont convenir à 80% des gens dans 80% des cas. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission qui sont beaucoup plus technophiles que ces 80% des gens et qui se disent « Ah oui, mais moi, je voudrais faire ci et ça. » Aujourd'hui, un ordinateur, les ordinateurs qui se vendent le plus, c'est des ordinateurs portables dans lesquels on peut changer assez peu de choses. Et les ordinateurs d'Apple qui se vendent le plus, c'est les MacBook Air. Et c'est des ordinateurs qui sont complètement soudés du début à la fin, quoi.
Oui, mais en même temps, les personnes qui, en effet, c'est ça, les personnes qui achètent des MacBook Air vont pas être celles qui vont le customiser, le bidouiller. Oui. Y a ça aussi. C'est différent, c'est un public différent que ceux qui souhaitent monter leur PC. Et je peux complètement comprendre ceux qui souhaitent monter leur PC, hein. Mais c'est pas le même public.
D'ailleurs, quand on parle ça, de monter...
Le MacBook Air n'est pas du tout quelque chose que tu vas customiser. En fait, je crois que j'ai ouvert un MacBook Air dans ma vie, c'était pour changer la batterie, du temps où les batteries des MacBook Air crevaient au bout d'un an. Mais c'est vrai que j'ai pas été... surtout depuis que j'ai pris des configurations plus... plus costaud, j'ai pas été changé la mémoire ou le disque depuis un bout de temps. C'est clair.
Ouais, je crois que effectivement, c'est une des choses qui commence à appartenir au passé, à part pour les gamers peut-être, et à vrai dire pour les gamers certainement. Ce qui d'ailleurs est une question pour les Mac qui ne vont pas pouvoir utiliser des eGPU. C'est marrant, ça m'amuse beaucoup quand les gens disent ah le eGPU c'est l'avenir des cartes graphiques. Non non, c'était juste des trucs qu'on utilisait sur Mac parce que Apple était pas foutu de mettre des puces graphiques compétentes dans leurs machines. Et là, c'est toujours pas le cas. Il y a aussi les webcams qui restent en 720p, il n'y a que deux ports USB-C sur ces machines-là. Donc, il y a des préoccupations, mais des choix de design qui sont spécifiques à ce type de machine. Il faudra voir aussi ce que ça donnera. Peut-être que ça sera des, je ne sais pas, M1X, M2, les puces. Mais une remarque intéressante que j'ai entendue, c'est que ces puces-là qu'on est en train de voir maintenant, bien sûr, elles seront plus puissantes quand elles pourront opérer dans des ordinateurs qui n'auront pas les mêmes contraintes thermiques et énergétiques, donc des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs avec de plus grandes batteries. Mais surtout, c'est les puces qui seront les moins puissantes de l'histoire des puces Apple. À partir de là, on va systématiquement gagner en puissance avec chaque génération. Donc, si on est déjà dans une situation où non seulement elles ont une autonomie importante, mais en plus une puissance qui rivalise et qui dépasse les équivalents du côté de chez Intel, c'est très, très prometteur. Bon, on verra ce que ça donne. Entre parenthèses, macOS 11, Big Sur et disponible depuis quelques jours. Il y a eu quelques petits couacs, on va dire ça comme ça. Mais c'est notable aussi parce que c'est plus macOS 10, c'est macOS 11. Et c'est pas 10.2, 10.3, c'est 11. C'est une nouvelle version et ça faisait, je sais pas, 15 ans, 20 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelle version de macOS. Donc c'est vraiment important aussi. Et c'est la version de macOS, on va dire, qui thématiquement, mais pas dans le fonctionnement, thématiquement rapproche macOS d'iOS. Et évidemment, c'est important dans la conception de l'OS aussi.
Et tu l'as mis à jour, le tien, ça y est ?
Non, pas encore. J'ai attendu parce qu'il y a eu tellement de problèmes. Je me suis dit non, non. Et en plus, j'avais d'autres choses à faire. Mais non, je ne l'ai pas mis à jour. Toi, tu l'as mis à jour ?
Aujourd'hui.
D'accord. Là, et tu es contente ?
Je découvre... Il y a du bon, il y a du moins bon. Le centre de contrôle, je pense qu'on sera tous contents de retrouver nos petits qu'on a l'habitude d'utiliser sur iOS. Donc, en termes de cohérence, il y a du bon. Il y a aussi du bon en termes de lisibilité, des icônes plus grandes, mieux espacées, etc. Après, il y a des petites choses qui font mal aux yeux, comme des retravails d'icônes malvenues. Et de très mauvais goût, mais bon, écoute, je pense que ça sera intéressant que tu jettes un coup d'œil aux préférences système, aux icônes dans préférences système où tu as des sabliers très très comment dire disco, un icône son avec des espèces de d'halo fluo, enfin c'est bref, je sais pas ce qui s'est passé.
Il risque d'y avoir macOS 11.1 l'année prochaine qui va changer certains choix graphiques, on va dire.
J'espère.
Eh bien, écoutez...
Ouais, moi, j'attends les bug fixes parce que ça n'a pas l'air la joie quand même. Hein.
Ouais, ça a l'air un petit peu...
Après, je l'ai installé sur l'ordi perso, hein, pas le pro.
Ouais, c'est ça, tu restes prudente quand même. Je crois que c'est effectivement une grosse mise à jour, assez ambitieuse. Donc, il n'est pas très surprenant que ça soit... comment dire ? Qu'il y ait des couacs, on va dire ça comme ça. Mais on attendra de voir la manière dont ça se stabilise dans les mois à venir. Ben voilà pour le petit point sur Apple. On va faire une toute petite pause et puis on va parler de TikTok. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de TikTok. Et la pause, c'est pour vous parler d'autre chose. C'est pour vous parler de, dites-le avec moi, 1, 2, 3, Patreon. Et oui, Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Vous savez que si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez qu'on vous résume bien l'actu de la tech, eh ben vous pouvez soutenir l'émission. Et ce faisant, non seulement vous avez des bonus hyper cool, comme par exemple les émissions sans pub, les émissions avec des contenus bonus. Vous avez aussi les time codes pour passer d'un sujet à l'autre dans le flux privé du podcast. Mais en plus de ça, vous avez la fierté, le plaisir de soutenir un travail que vous appréciez. Vous faites partie des gens qui permettent à ce travail d'exister. Et ce sentiment de fierté, quand vous lancez un épisode et que vous vous dites « Ah, si Patrick peut faire ce travail, c'est grâce à moi », eh bien, ce sentiment de fierté, il est unique et il n'a pas de prix. Enfin, il n'a pas de prix, je veux dire, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Hein. Il a le prix que vous mettez dessus. Et c'est vous qui choisissez. Donc, un grand, grand merci à ceux qui décident de soutenir l'émission. Vous savez que c'est sur patreon.com/rdvtech. Ça se fait en 1 minute et demie. Ça vous donne accès à plein de bonus super cool. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile tout de suite là, si vous le souhaitez. Vous pouvez également le faire quand vous rentrez à la maison, que vous mettez les clés dans le petit bol, que ça fait cling et vous dites « Ah, je vais aller voir patreon.com/rdvtech pour voir s'il y a des trucs sympas que je peux obtenir en devenant patriote du rendez-vous tech. Merci à vous tous qui choisissez de le faire.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Je vous ai promis qu'on parlerait de TikTok. Est-ce que vous avez vu ce compte TikTok qui s'appelle Tout sur la fibre?
Il est génial. Je l'ai découvert grâce à l'article que tu as partagé et je l'ai regardé tout à l'heure. Il est excellent quand même.
C'est un compte TikTok qui est tenu par une personne qui travaille dans les télécoms, un installateur télécom qui montre comment sont installées les armoires à fibre de certains opérateurs dans certains immeubles. Et si vous voulez faire des cauchemars, je pense que c'est le compte à aller regarder parce que c'est difficilement descriptible, en fait. Je mettrai le lien sur le lien de l'article dans la newsletter. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est sur notepatrick.com. Vous avez le lien pour vous abonner. Mais il y a plein de trucs très cool, mais notamment cet article-là avec ses vidéos TikTok. Mais imaginez la pire chose que vous puissiez envisager avec une armoire où il y a toutes les connexions fibres qui se rejoignent dans votre immeuble, dans la cave de votre immeuble pour distribuer la fibre. La pire chose que vous puissiez imaginer, je vous garantis qu'il y a des exemples pires sur ce compte TikTok. Et
mais ce qui est excellent aussi avec ce compte, c'est qu'on sent que l'installateur est quand même quelqu'un qui aime le travail soigné. Et qui du coup se sent mal quand il voit les installations. À un moment donné, il a dit non, mais là il y a un boîtier qui fait une tentative de suicide. Il était en train de tomber avec tous les câbles. Tu pouvais sentir au son de sa voix qu'il était mal, en fait.
Ah, mais moi je comprends complètement. Et en plus, il a une voix toute douce, il est super gentil. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et ce qui est notable, bon, en plus de la blague sur l'histoire de Tout sur la fibre, c'est la nature du contenu qui est populaire sur TikTok. Parce qu'on est en train de voir ici et là, là je prends cet exemple, mais il y en aurait d'autres, on est en train de voir ici et là des comptes TikTok qui gagnent en popularité, qui font autre chose que juste des danses et de la musique. Alors bien sûr, c'est toujours la majorité, mais ça commence à s'étendre au-delà de ça. Et clairement, là, c'est un exemple de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a rien à voir et qui commence à être assez populaire. puisqu'on parle de TikTok, ils savent toujours pas vraiment où ils en sont par rapport à l'interdiction d'opérer sur le territoire américain et le deal qu'ils devaient faire avec Oracle. Il y a visiblement plus de news du côté de la Maison Blanche, mais légalement, il y a un délai qui a été accordé de 15 jours supplémentaires. Donc l'interdiction devrait prendre effet le 27, même si il semblerait que les autorités compétentes soient occupées à faire d'autres choses. Et puis, il y a une autre tendance que je voulais mentionner, c'est les chaînes de distribution, les grands magasins en fait, enfin les magasins, qui seraient en train d'encourager, aux États-Unis en tout cas, leurs employés à devenir micro-influenceurs sur TikTok ou Twitter, mais TikTok aussi bien sûr puisque c'est lui qui a le vent en poupe. C'est-à-dire que certains font des tops des employés qui ont eu le plus d'activités sur leurs réseaux sociaux en partageant des infos de la boîte. Ils les encouragent à faire des challenges de danse, ce genre de choses. Alors certains employés disent « mais foutez de moi, c'est pas payé, vous voulez que je bosse en plus ?» Pour vous, c'est n'importe quoi. Mais c'est une tendance qui, semble-t-il, est en train de se démocratiser. C'est-à-dire les boîtes qui se disent « Mais attendez, on a 10 000 employés. Si 1000 d'entre eux ont chacun 1000 followers, ça fait quand même pas mal de monde qu'on peut toucher. Ou si 5 000 ont 100 followers, Dieu sait quoi, c'est pas mal de monde qu'on peut toucher. » Donc, ils sont en train d'essayer d'encourager les gens à... promouvoir la société pour laquelle ils travaillent à leurs followers sur les réseaux sociaux. Ça me semble un petit peu poussif comme méthode quand même, mais bon, visiblement, c'est en train de se produire. Je ne sais pas si vous seriez intéressé par cette idée, mais c'est... Marion, tu es prête à faire la promo de Nowtech, mais peut-être que tu le fais déjà. Bon, ce n'est pas un bon exemple.
Oui, alors pour Nowtech et Alan, c'est on le fait déjà ou je le fais déjà. Pour Nowtech, je choisis, mais en gros, c'est mon boss qui va me suggérer des posts, c'est-à-dire qu'il va me mentionner dans les stories Instagram. Et si j'ai envie de le reposter, je reposte. Donc, je le fais que quand ça m'intéresse. Donc, vous pouvez voir
tu
que je ne le fais pas
liberté.
Souvent. Et sinon, sur Alan, en fait, on a un outil tout simple, c'est qu'on a une channel Slack où toutes les personnes de la boîte qui souhaitent faire un petit post social, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, etc., peuvent demander à l'équipe d'encourager le post, de liker, de reposter, etc. Et donc, ils mettent un petit message dans cette channel.
Ah, donc il y a un système en place qui est à échelle d'une boîte qui n'a pas 10 000 employés, mais il y a déjà un système pour vous pour faire ce genre de choses. Mais là, tu dis, c'est les employés.
Oui, il
n'y
a pas
qui...
de récompense.
D'accord. C'est vraiment genre, si vous voulez, vous pouvez, et c'est comme ça que ça se passe.
Exactement.
Mais c'est pas. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Jeff, ça te parle, ce genre de pratique, ou c'est un peu trop. Je sais pas, moi, ça me semble un petit peu. Pas suspect, mais je me dis, mais c'est. Peut-être que je suis trop français, mais je me dis, mais attends, si tu ne payes pas, t'es mon employeur, si tu veux que je fasse des trucs, il faut que tu sortes. Mettre la main au portefeuille en plus, quoi, je sais pas.
Rien ne dit qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire que quand tu utilises ta propre personne pour promouvoir un produit, un service, etc., tu deviens en fait quelqu'un qui fait du marketing. Donc ça, typiquement, si tu veux avoir un influenceur qui représente ton produit, tu vas payer. Donc à un moment ou à un autre, s'il voit que ça a du sens... Le problème, c'est que c'est super difficile quand tu as des micro-influenceurs de faire quelque sorte de targeting, ce qui est toujours le plus important quand tu fais de la publicité, quoi. Donc, on avait investi il y a 5-6 ans dans une boîte qui s'appelait Niche, qui était au tout début en fait, de cette vague des influenceurs. Et les premiers temps étaient un peu bizarres, mais ça marchait très bien, quoi. Et quand tu vois aujourd'hui comment tu dois avoir un canal Instagram, un canal TikTok, un canal sur toutes ces plateformes, et pas uniquement parce que tu vas représenter en fait ton produit au travers de vidéos, d'audio, de photos, alors que typiquement la pub c'était surtout du texte au début, ça, c'est pas étonnant. Comment tu vas gérer ça et comment tu vas l'amener à une certaine scale, c'est ça qui va être le problème, quoi.
Ouais, je crois que dans ce genre de...
ça va être compliqué.
J'ai l'impression que dans ce genre de situation, c'est plutôt les managers qui disent « Ah, mais attends, on a plein d'employés, pourquoi ne pas leur proposer, si on n'est pas cynique, pourquoi ne pas leur proposer de tweeter à propos de cette opération ou de ce truc ?» J'ai pas l'impression que ça soit hyper réfléchi avec « On va faire un lien spécial et donc il va y avoir de l'affiliation, on va pouvoir compter qui a eu combien de retweets et de... » J'ai pas l'impression que ça soit cet esprit, quoi. C'est peut-être même dans certains cas un petit peu maladroit, genre « Oh, mais j'ai entendu que TikTok, c'était un truc qui marchait bien, c'est les jeunes. Jean-Jacques, vous ne voudriez pas demander au community manager comment ça fonctionne pour qu'on encourage les employés à le faire ?» Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est cette odeur que je crois déceler quelque part autour de cette tendance, mais bon.
Après, je ne sais pas comment on peut, enfin, s'il y a un parallèle à faire, mais par exemple dans la communauté design ou la communauté d'engineering, enfin des ingénieurs, tu peux voir aussi que il va y avoir des ingénieurs qui vont être très très populaires, qui vont rédiger des articles pour expliquer leur travail, les technologies, comment ils ont travaillé sur un aspect bien précis du produit. Etc. Et grâce à ça, ils vont donc communiquer à la fois sur leur travail, mais également sur la boîte dans laquelle ils travaillent. Et ils vont également attirer des talents par rapport à cette reconnaissance dans leur domaine. Donc, tu vois, c'est aussi créer une sorte de communauté et potentiellement avoir un impact sur la boîte pour laquelle tu travailles. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même aussi créer un sens de communauté, de communication sur les plateformes.
Ouais. J'ai l'impression que dans ces cas-là, c'est le contenu qui apporte la valeur à l'opération, alors que dans le cadre de TikTok et Twitter, alors peut-être qu'il y a des gens super doués qui font du contenu tellement cool que c'est ça qui va apporter la valeur, mais j'ai du mal à imaginer quelque chose qui soit vraiment... Enfin, ça va être... Répercute la campagne de com qui a déjà été faite par la boîte sur ce genre de truc, j'imagine. Et le problème...
Par exemple, moi, sur Twitter, j'ai partagé un article que j'ai écrit sur comment recruter des user researchers, puisqu'on avait recruté des user researchers chez Alan, et je l'ai retweeté. Et donc, du coup, voilà, tu as eu un petit vent, quoi. Mais...
C'est-à-dire que là, c'était un article qui était le contenu intéressant. Et oui, que toi, tu avais fait, et donc que tu as tweeté, c'est normal. Mais les opérations dont on parle, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Peut-être qu'il y a des gens qui créent des trucs de fou, mais je ne sais pas.
Tu vois, si tu prends la personne qui est sur le compte Tout sur la fibre, bon là, elle ne parle pas, je crois.
Ah oui, non, c'est complètement autre chose.
Elle ne parle pas de son employeur.
Ouais. Non, c'est complètement différent.
Mais c'est intéressant parce qu'elle met en avant le soin qu'elle apporte à son travail et si elle mentionnait son employeur, ça projetterait une image positive sur son employeur.
T'as raison, oui, complètement. Complètement. Mais je me dis que ce genre de personne, c'est même un petit peu dangereux pour l'employeur parce que si cette personne commence à avoir une certaine notoriété, du coup, tu contrôles plus le message parce que tu l'as mise en avant en tant qu'individu. Et à mon avis, c'est un peu casse-gueule comme opération quand même. Enfin, il y a un risque, on va dire.
C'est le problème quand tu utilises la personne et son identité pour promouvoir un produit ou un service. C'est qu'à partir du moment où cette personne se détache, bah, tu perds tout ça, quoi.
Exactement.
Et c'est la même chose pour les ambassadeurs, en fait, les stars qui sont rémunérés par les marques, hein.
Complètement, oui, c'est sûr. Mais là, tu parles d'employés qui sont des employés de la marque, donc ils ont une légitimité. Si quelqu'un, par exemple, tu pousses tes employés, tu retweets, tu crées un écosystème où tous les employés vont se pousser les uns les autres, et il y en a un ou deux qui devient célèbre, et une personne quitte la boîte et va révéler des trucs sur la boîte, pas des secrets, mais que les choses se passent pas bien, par exemple, ou n'est pas contente, t'as un petit peu donné ta corde pour te faire pendre. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un peu ce qui s'est passé avec les YouTubers qui sont partis sur Twitch et vice-versa, etc. Alors, c'est pas la même relation.
Mais non, mais c'est pas des employés, moi, je trouve. Tu sais, un employé,
c'est pas des employés, mais ils utilisaient un service quand même. Ils utilisaient un service, ils faisaient, en gros, ils cautionnaient un service. Et à un moment donné, quand le service leur a plu, ils sont allés ailleurs.
Bien sûr.
Et alors, en effet, c'est pas la même relation, mais tu as toujours ce risque.
Mais imagine que ça soit la même chose, sauf que c'est une personne qui est employée de la boîte et qui du coup parle un petit peu, enfin ça a une portée différente, et qui quitte la boîte, aille ailleurs, du coup tu as construit la personnalité qui va aller faire de la pub à un concurrent ou qui va dire du mal de toi. Ou, je ne sais pas, moi c'est un truc qui me... Peut-être que c'est mes mentors de ma vie professionnelle qui m'ont inculqué ce genre de choses. C'est hyper compliqué.
Ouais, mais c'est pas parce que tu as des effets négatifs qu'il ne faut pas forcément ne pas le faire.
Mmh. Ouais, c'est pas faux.
Tu as toujours le risque. C'est ce que tu as quand tu as une star qui va représenter ta marque et que la star... passe, tu vois, de Adidas à Nike ou quelque chose comme ça.
Mmh, c'est là, vrai, c'est vrai.
In fine, c'est une histoire de gros sous. Ça arrive souvent aux États-Unis aussi que tu as quelqu'un qui devient le représentant d'une marque et sur les pubs. Donc, ça devient en fait une association entre la personne et la marque. Et puis, bah, d'un seul coup, ce même acteur se met à faire des pubs pour la marque concurrente.
Ouais.
Exactement. Ouais, non, et généralement, dans ce genre de contrat, tu as des clauses qui t'empêchent de révéler des secrets de la marque que tu as quittée ou de faire de la mauvaise pub, entre guillemets, pour la marque que tu as quittée. Tu peux aller potentiellement chez le concurrent ou pas, ça dépend des clauses, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre.
Mmh. Ouais, c'est un petit peu les mêmes problématiques au final, vous n'avez pas tort. Bon, quelques news plus rapides. On a Uber qui serait en train de se séparer de son unité de voiture autonome, le Advanced Technology Group, qui pourrait le vendre à une autre société qui se concentre sur la voiture autonome. En gros, c'est un petit peu Uber qui est en train de nettoyer les trucs qui font pas d'argent maintenant, qui sont des paris sur le beaucoup plus long terme. Peut-être que c'était même encore plus long terme que ce qu'ils n'avaient espéré et qui sont en train de se reconcentrer sur des choses un peu plus pratiques tout de suite maintenant. Il y a du côté de iOS une nouvelle bêta qui suggérerait qu'Apple pourrait vous proposer des applications de partie tierce pour votre iPhone ou votre iPad quand vous êtes en train de faire l'installation. Donc, pour installer, par exemple, un programme de mail, il pourrait, bien sûr, vous suggérer sa propre application de mail, mais aussi vous suggérer, je ne sais pas, Gmail, Outlook ou Proton Mail, par exemple, qui sont des différents services de mail, pour possiblement apaiser les préoccupations sur la...
Ça, c'est l'antitrust. Ouais.
Sur l'antitrust, exactement.
Et puis, on peut dire un mot sur le...
Bien sûr, allez-y.
Uber. C'est un poil étonnant parce que Uber a toujours dit que la seule façon de développer des plus grosses marges, c'était d'éliminer le coût des chauffeurs, ce qui est logique, puisque c'est un coût, qu'ils doivent absorber. Et même si leur unité... n'a pas été en gros ça a été un puissant fond en termes de fric, ils n'ont pas sorti grand chose. C'est un poil étonnant parce que je pense qu'une boîte comme Uber se doit de développer de la propriété intellectuelle dans le domaine. Bon, j'imagine que de toute façon ils vont aller faire un partenariat avec Google maintenant que l'histoire Lewandowski a plus ou moins été traitée. Bon, je crois qu'il y a toujours un truc en cours entre Uber et Google sur un paiement de je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars. Mais c'est un peu étonnant que Uber lâche la grappe là-dessus, parce que je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui sera important pour la boîte. Quoi.
C'est vrai que c'est c'était selon tous les analystes, le but ultime de Uber. Alors, d'une part, c'est qu'une rumeur encore, mais d'autre part, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas utiliser de voitures autonomes. C'est juste qu'ils devraient sans doute utiliser des voitures autonomes d'un constructeur tiers ou des systèmes tiers à terme. Ou peut-être qu'ils garderont une partie de la société résultante ou qu'ils auront un accord spécifique. Mais ouais, c'est surprenant, ouais, surtout
comment,
que c'est une
grosse boîte. Comment veux-tu développer un savoir-faire et une... des marges sur un logiciel qui est le même pour tout le monde, parce que si Uber et Lyft utilisent tu vois le logiciel de Google qui est un des plus avancés, c'est quoi leur
quel avantage à Uber? Oui, c'est vrai.
Donc c'est
surprenant,
poil étonnant. D'un autre côté, bon, je veux dire, leur performance en bourse elle est plutôt bonne ces jours-ci, donc on va pas se plaindre.
Un jugement a été rendu en Autriche. La Cour suprême autrichienne a rendu un jugement qui, en fait, d'une certaine manière, va dans le sens de la Cour suprême européenne. Mais ce qui est important, c'est que c'est un jugement qui demande à Facebook de supprimer du contenu insultant pour une femme politique qui s'appelle Eva Glavishning. Donc, ce contenu insultant devait déjà être supprimé localement pour les utilisateurs situés en Autriche et de fait dans l'Union européenne, mais ce jugement spécifie que Facebook doit également le supprimer dans le reste du monde. Et c'est la grande question, bien sûr, qui se pose toujours dans ce type de jugement. Si on demande à Facebook de supprimer, si un pays peut demander à Facebook de supprimer son contenu localement, on peut le comprendre, mais dans le reste du monde, c'est certainement quelque chose qu'on peut défendre quand on regarde les choses du point de vue de cette femme politique ou des problématiques qui se posent à certaines personnes. Ces personnes vont dire « bah oui, mais moi, je ne veux pas que ça soit disponible ailleurs parce que c'est le même problème et on peut utiliser un VPN pour aller regarder ailleurs, etc. » Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, le monde entier est soumis aux décisions de justice du monde entier. Ce qui veut dire que si quelqu'un demain, je vais dire n'importe quoi, en Malaisie, un jugement est rendu disant que tel tweet ne peut plus apparaître sur Twitter, mais pour le monde entier, eh ben, la censure, le pire des cas de tous les pays s'applique à tous les pays. C'est évidemment une question très problématique. On ne sait pas comment Facebook va réagir, mais c'est un précédent extrêmement important. Et j'irais même jusqu'à dire assez inquiétant. Vous savez que ces dernières semaines et derniers mois, j'ai dit que, selon moi, il fallait être plus proactif sur les réseaux sociaux pour supprimer des contenus dangereux. Et je ne vais pas refaire ce débat-là, mais j'ai un petit peu changé d'avis sur ce point, sur ce point-là. Sur la question de la souveraineté des pays sur les contenus du monde, je suis beaucoup plus réservé. Pour moi, il est très problématique d'imaginer qu'un pays puisse rendre un jugement sur un contenu qui s'applique au monde entier et pas uniquement à ce pays-là. Donc, bon, à suivre, très certainement.
Surtout dans des conditions où les pays sont répressifs par rapport à la communication.
Exactement.
C'est un peu compliqué, quoi.
La Chine a commencé à écrire des brouillons de lois qui vont limiter le pouvoir des géants de la tech. Quand on dit que les questions d'abus de position dominante, etc., se posent en Europe et aux États-Unis, ben même en Chine, visiblement, le parti commence à s'inquiéter du pouvoir de sociétés monumentales comme JD.com ou Alibaba ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est à mentionner. Il faut le savoir quand on suit le monde de la tech. Même en Chine, ça commence à bouger un petit peu. Alphabet a annoncé un projet assez intéressant pour les connexions Internet à distance. Ça s'appelle Tahara. Et en gros, c'est un système qui utilise des signaux optiques, donc des lasers, pour transmettre des informations d'un endroit à l'autre, mais en ligne de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser de câbles, on met juste une tour à un endroit, une tour à l'autre, avec une ligne de vue de l'un à l'autre, et puis on envoie un laser d'une tour à l'autre pour transmettre les informations. C'est quasiment aussi rapide que la fibre. Évidemment, le problème, c'est que s'il fait mauvais, si on a quelqu'un qui met la main devant le laser, bah, la ligne de vue est obstruée, donc ça ne marche plus. Mais c'est une idée toute simple qui peut, dans certains cas, il parle spécifiquement de l'Afrique subsaharienne, peut avoir des applications assez intéressantes. Ça fonctionne jusqu'à 20 km et on peut atteindre des vitesses de 20 gigabits par seconde. Évidemment, ça peut avoir des applications dans certaines situations. Dernier petit truc, c'est avant de... j'ai deux news encore, mais les spécifications du Samsung Galaxy S21, ça serait sans doute son nom, ont été leakées. Le truc intéressant, c'est qu'il a un capteur pour l'appareil photo principal de 108 mégapixels avec un zoom optique 3 fois et un zoom super optique 10 fois. Mais bon, 108 mégapixels, on sait que ce n'est pas le nombre de pixels qui compte, mais ce n'est pas le premier à avoir un capteur aussi grand. Mais du côté de Samsung, généralement, ils font les choses bien au niveau de la photo. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait un Samsung qui avait déjà un capteur de 108 mégapixels. Donc, je serais curieux de voir ce que ça donne. Allez, on conclut avec deux petits sujets qui vont nous faire gratter la tête. D'une part, Airbnb a annoncé que depuis la mise en place de leur politique antidiscriminatoire en 2016, il y a 1,4 million de personnes qui ont décidé de ne pas accepter la politique et donc de ne pas utiliser Airbnb comme service pour... Référence, la politique, c'est que il faut, quand on met son bien en location sur Airbnb, dire qu'on est d'accord pour ne pas choisir nos invités, les gens qui vont louer le bien, en fonction de leur race, leur religion, leurs origines nationales, leur ethnicité, leur handicap, leur sexe, etc., etc. Et il y a quand même 1,4 million de personnes qui ont dit « Ah non, ça je veux pas, hein. Ça je veux pas, ok, pas, je vais pas mettre mon truc sur... » C'est spécifiquement au moment où il faut cliquer « Ok, je suis d'accord sur ce point » qu'il y a des gens qui disent « Non, je veux pas ». C'est un peu... Et bien sûr, peut-être que la majorité d'entre vous ne le savent pas, mais il y a de nombreux témoignages de personnes de couleur notamment qui expliquent de quelle manière tout à coup, quand on voyait leurs photos, le bien était tout à coup plus disponible. C'était un vrai problème et ça reste certainement un vrai problème sur Airbnb, mais 1,4 million de gens qui se disent non, ça je... Bon, ok.
Bah, t'as 71 millions de gens qui ont voté pour Trump, hein, donc...
Et 1,4 finalement, c'est peut-être un bon résultat, peut-être.
Oui, c'est ça, c'est à mettre en perspective avec le nombre total au final.
Peut-être, oui. On va dire qu'il y a seulement 0,2% de gens qui n'acceptent pas. Bon, on va prendre
Choses. C'est pas pour dire que je suis contente de ce nombre, hein, pas du tout. Mais
Et je ne sais pas si c'est 0,2%, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens que 1,4 million qui utilisent Airbnb. Allez, dernière news qui symbolise bien 2020. Vous savez que chaque...
chiffres très bientôt, puisqu'ils ont annoncé que, je crois qu'ils filent leur S1, donc leur document public.
Ils vont entrer en bourse, ouais. Matin. Ils vont entrer en bourse, tout à fait, et donc on aura plus d'informations sur le fonctionnement de la boîte. C'est marrant quand même comme moment pour Airbnb pour rentrer en bourse. Hein. C'est...
Oui, donc, cette année, particulièrement, oui.
Bah, ce que disaient les commentateurs, c'est que a priori leur activité s'est redressée au troisième trimestre et que a priori les gens seront surpris de comment, enfin de cette reprise. Et il y a aussi en fait des obscures situations de taxes par rapport à leurs options qui font qu'ils ont vraiment besoin d'aller public le plus tôt possible. Sinon, ils vont devoir régénérer, redonner plein d'options à des employés, etc. Donc, je crois qu'ils ont des malheureusement, ils sont des un peu bloqués, quoi. Il faut qu'ils aillent public.
Et, d'accord.
En gros, que tu ailles public pour 30 ou 35 ou 40 milliards, je veux dire, ça fait pas une grande différence. Donc, c'est un peu le rush, quoi.
D'accord. C'est pas le rush pour YouTube. Vous savez qu'ils font chaque année leur Rewind, qui est un résumé de quelques minutes des vidéos les plus marquantes de l'année qui s'est écoulée. Eh bien, ils ont annoncé, de manière finalement peut-être pas très étonnante, qu'il n'y allait pas y avoir de Rewind 2020. Cette année, ils allaient oublier cette tradition. Et peut-être que c'est pas plus mal. On va se dire que ça symbolise bien l'année, même si je suis sûr qu'il y aurait eu quand même un moyen de le rendre positif et bienveillant et donner de l'espoir, mais ils ont décidé, et je ne peux pas vraiment les critiquer sur ce point, d'éviter l'exercice. C'est vrai que ça n'aurait pas été facile.
Je pense que c'est surtout une aubaine, enfin, c'est un peu méchant de dire ça, mais je pense que c'est une aubaine pour YouTube de prendre le contexte de la crise sanitaire mondiale pour se dire non, non, mais par respect pour toutes les personnes dont les vies ont été prises, on arrête le rewind, quoi. Parce que je pense
mais
pas qu'ils reprendront l'année suivante.
C'est vrai qu'il y avait à chaque fois des controverses, mais.
Ouais, voilà, depuis quelques années, quand même, il déclenche plus de mauvaise presse pour YouTube avec ce rewind que de bonne, hein.
Ouais. Donc tu penses qu'ils profitent de l'occasion pour se dire ok, bon, à chaque fois ça fout le foutoir partout, donc ok.
C'est ça, parce qu'en fait tu vas te retrouver avec une sélection de vidéos qui va être complètement déconnectée des problématiques actuelles, mais d'une manière qui en fait ça va refléter pas le pire de YouTube, mais voilà, enfin, ça va faire ressortir encore une fois des tensions liées au contenu qu'il y a sur YouTube et le succès de certains contenus, quoi. Donc, je pense qu'en effet, ils cherchaient une bonne raison pour peut-être s'en débarrasser.
Écoute, ça me désole de le dire, mais je trouve que tu vois un petit peu le mal partout. Et ce qui me désole, c'est que c'est tout à fait cohérent ce que tu dis. Donc,
désolé.
Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. Avant de se quitter, évidemment, comme toujours, je propose à mes deux merveilleux invités de nous dire où on peut les retrouver. Jeff, où es-tu ? Jeff ?
Il est parti.
Jeff, il est en train de lire le S1 de Airbnb qui vient juste de tomber.
Ah, ah ça y est.
On était pressions. On a dit ça va tomber, boum, ça a tombé. Je suis Jeff, J-E-F-F, sur Twitter, et c'est là où on me retrouve, même si ces jours-ci, je ne tweete pas beaucoup.
Tu préserves ta santé mentale.
Parce que sinon, je tweeterai que des messages anti-Trump, donc c'est pas la peine.
Je comprends. Marion, où te retrouve-t-on ?
Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver également sur Twitter au pseudo Aizea Design, et sinon, vous pouvez également me retrouver sur la chaîne Naotech sur YouTube ou Twitch.
Magnifique, et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, quoi d'autre ? Il en faudrait un troisième pour faire bien. Le Discord, c'est pas NotePatrick, malheureusement. J'ai pas encore le nom, mais...
Attends, mais t'as pas Twitch, YouTube et Instagram ?
Twitter et Facebook. Non, mais
tu vois, c'est pas mal.
Ouais, mais 5, moi j'aime bien quand je pourrais dire, tu vois, 3 réseaux sociaux stricts et puis 3 trucs un petit peu différents, genre Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, et puis YouTube, Twitch et autre chose. Et il n'y a pas autre chose.
Oui, il faut une nouvelle plateforme.
Ouais. Et le web, notepatrick.com, vous pouvez y retrouver donc les liens vers tout ce dont je viens de parler, et la newsletter, vous pouvez vous abonner, et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, c'est le Patreon pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, c'est là-bas que vous pouvez aller faire un tour et envoyer un petit euro pour les épisodes que vous aimez. Je vous remercie tous, je vous fais des gros bisous, et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.